Alors, comment rentrer dans cette période d'espérance qu'est l'Avent? Comment vivre cette légèreté, cette joie d'attendre? Il y a quelques jours, nous avions acheté un petit magazine, Pomme d'Api, qui chaque année édite un ouvrage un peu spécial autour de Noël, pour préparer l'Avent avec les enfants. Et puis Suzanne, ma petite fille, alors que j'étais en train de prendre mon café, est en train de jouer avec les personnages de la crèche, en carton. Et je peux vous dire que c'était tout un drame lorsque Suzanne rejoue la crèche. Je me souviens d'un petit dialogue entre Marie et Joseph, dont je relate à peu près les faits. Hein. Joseph, il faut que nous partions. Et Joseph de répondre, non Marie, il nous faut aller d'abord à Jérusalem. Et là, je vous avoue que j'ai souri intérieurement. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'aimerais parfois être comme un enfant. Un enfant et vivre légèrement cet avant, dans la dépendance, dans la confiance. Et quelle ne fut pas la surprise lorsqu'en constatant que les textes prévus pour la méditation de ce matin, dans ces textes, il était question non pas de Jérusalem, mais de Jérusalem, et puis de fils et de filles qui rentrent à la maison. Aussi, je vous invite à suivre avec moi la lecture de ces deux textes. L'un se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, et le second sera dans l'évangile de Luc, au chapitre 3. Ésaïe, chapitre 60. Parole du prophète qui s'adresse à Jérusalem. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, lui-même, comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est élevée sur toi. Regarde autour de toi et vois. Ils se rassemblent tous. Ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de loin. Tes filles sont portées comme des enfants sur la hanche. Tu le verras alors. Tu brilleras de joie. Ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront détournées vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi. Tu seras submergé par le flot des chameaux. Les dromadaires de Madian et d'Épha couvriront ton pays. Tous les habitants de Saba viendront, et ils apporteront de l'or et de l'encens, et ils proclameront les louanges de l'Éternel. Les moutons et les chèvres de Kédar s'assembleront chez toi. Tous les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel en offrande agréée, et je rendrai splendide le temple où ma splendeur réside. Qui sont ceux-là qui viennent volant comme un nuage ou comme des colombes qui regagnent leur colombier? Les habitants des îles et des régions côtières guetteront mon signal. Les vaisseaux au long cours viendront, les tout premiers, pour amener tes fils de loin, avec leur argent et leur or, pour faire honneur à l'Éternel ton Dieu et au Saint d'Israël qui te fait resplendir. Les étrangers rebâtiront tes murs, leurs rois te serviront, car je t'avais frappé dans mon indignation, mais maintenant dans ma faveur je te témoigne ma tendresse. Tes portes, jour et nuit, seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour laisser affluer vers toi les trésors des nations et leurs rois en cortège qu'on mène de force vers toi. Et le second texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, qui nous parle d'un autre prophète, Jean-Baptiste. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque, son frère Philippe sur l'Iturée et sur la Traclonite, Lysanias sur la Bilaine, Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert : « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. » Amen. Nous avons là deux textes incroyables. Deux textes qui parlent de prophètes. Deux textes qui nous donnent le message de l'espérance de Dieu pour un petit peuple, mais pour le monde entier. Et je vous invite à méditer sur ces deux passages et à en tirer quelques perles pour préparer l'avant, cette attente bienheureuse de la venue du Christ. Commençons par nous pencher d'abord sur la fresque décrite par Ésaïe. Une fresque assez incroyable, assez même compliquée, avec des allées et venues, des choses assez percutantes, étonnantes. Un peuple qui va connaître la déportation, la guerre, reçoit une invitation à se lever, à regarder autour de lui. Ou plutôt même une petite ville à qui est adressé cet ordre « Lève-toi » comme un message d'espérance. Maintenant que tu as reconnu là où tu en étais, maintenant que tu as reconnu que tu étais effectivement dans ces ténèbres qui t'environnent, dans ces ténèbres qui règnent même dans ton cœur, lève-toi, car l'espoir est là. À portée de main, lève-toi, car ta lumière arrive. Le Seigneur cherche à relever son peuple par cette parole du prophète. Mais, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce premier verset. Je vous le relis, et vous me dites si vous trouvez le piège. Lève-toi, brille. Jusque-là, on peut comprendre. Et puis ensuite, il dit, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Est-ce que vous ne voyez pas un problème là ? Anne-Lise ? Voilà. Comment briller si la lumière n'est pas encore là ? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'allumer une lampe qui n'est pas allumée, qui n'est pas branchée à l'électricité. Cela ne fonctionne pas. Tout ça pour dire que dans ce petit verset, une petite invitation à se lever, se trouve un témoignage puissant d'espérance. Parce que cette lumière qui doit briller n'est pas naturelle. Elle est d'ordre spirituel. C'est celle qui provient de Dieu, la lumière du salut, celle du Rédempteur qui vient. Dans Ésaïe 59, verset 20, le prophète dit ça. Ton Rédempteur vient, ta lumière vient. Le Rédempteur vient. Message d'espérance pour cette petite ville qui va connaître bien des désagréments, des déportations, la destruction. Mais quelque chose de fort doit se passer entre ce moment où on est plongé dans les ténèbres et ce moment où on doit briller. Oui, ce Rédempteur doit venir, celui que le prophète Ésaïe appelle la lumière des nations, ce serviteur qui doit venir porter le poids des péchés de son peuple. C'est lui la lumière des nations. C'est lui ce Rédempteur qui doit venir. C'est lui qui doit faire jaillir cette lumière. C'est lui qui doit apporter Dieu au milieu de son peuple. Alors c'est vrai, ses habitants seront comme irradiés par cette présence de Dieu, mais bien plus ils sont invités à briller, à se laisser resplendir, de telle sorte que des nations et des rois verront cette lumière. Est-ce qu'il n'y a pas des rois dans un évangile qui voient une étoile de loin à la période de Noël? Ils verront donc de loin ces rois, ces peuples, cette lumière qui jaillit, qui s'illumine. Et dans cette petite ville va se refléter la gloire de Dieu. On a là un élément intéressant. Le Seigneur, je ne sais pas, aurait pu utiliser une ville lumière comme Paris. Non, il utilise un petit pays, et dans ce petit pays, une petite capitale, Jérusalem, pas Jésusalem. Le Seigneur nous visite dans les petites choses pour nous faire rayonner. Et nous sommes là en réalité au cœur du ministère du serviteur dont parle Ésaïe. Le serviteur, le saint d'Israël, celui qui vient racheter son peuple, celui qui est la lumière des nations. Et quand cette lumière de Dieu se lèvera en Israël, les nations vont reconnaître que c'est la gloire de Dieu qui se manifeste là. Et alors ils viendront en flot, nous dit le texte, par terre et par mer, à dos de chapeau, à dos d'âne, que sais-je encore. On se rassemble et on court vers cette lumière. Alors le Seigneur invite la ville de Jérusalem à se relever avec cette image, cette ville qui est prostrée dans ses ténèbres, dans sa peur, dans son désespoir. Le Seigneur lui dit, regarde ce qui va se passer. Regarde ce que je te promets. La présence de ce Rédempteur qui vient chez toi va provoquer un pèlerinage mondial incroyable, du jamais vu. On sera peut-être obligé de boucher les autoroutes, n'est-ce pas, comme la COP21, d'interdire à la population de prendre les transports en commun, tellement il y aura de monde. Mais remarquez quelque chose d'assez intéressant dans cette venue des nations, ces nations étrangères. C'est tout d'abord ce qu'ils apportent, des richesses. Ils apportent des richesses. Mais pourquoi apportent-ils des richesses en cet endroit? Il vaut mieux les laisser en caisse d'épargne au cas où ça va mal. S'ils apportent leurs richesses, c'est vraisemblablement que leur espérance, la confiance pour vivre, est tout autre maintenant. Ils vont adorer le seul vrai Dieu. Et ces nations, qui oppressaient autrefois ce petit peuple d'Israël, devient une nation qui se prosterne, qui se soumet. Et autre petit clin d'œil, ils apportent parmi leurs richesses de l'or et de l'encens. Autre question, qu'est-ce qui manque que nous retrouvons dans les évangiles quand il est question de la venue des mages aux pieds de Jésus? C'est question de connaissance biblique, l'or, l'encens et la myrrhe, mais bravo, bravo les amis. C'est culture générale, oui. On a donc des petits clins d'œil. La lumière que l'on suit, l'or et l'encens que l'on apporte. Et ces nations, Madian, Épha, Kédar, Nébaïoth, ce sont toutes des nations descendant d'Abraham. Le prophète Ésaïe est en train de dire là que quand ton Rédempteur viendra à Jérusalem, quelque chose de grand est en train de se réaliser. Et il est en train de se réaliser la promesse que Dieu avait faite à Abraham d'être une bénédiction pour toutes les nations. Et ces nations, ces ennemis d'autrefois ont été changés. Parce que ce sont eux qui vont ramener les fils et les filles de Jérusalem. Ils ne vont pas simplement les laisser aller, les libérer, ils vont les conduire. Dieu a transformé les cœurs de ces nations pour qu'ils se tournent vers le Dieu d'Israël dans un espèce de cortège incroyable. Ces nations ont connu une transformation profonde et ils viennent accompagner des fils et des filles exilés. de Juda et d'Israël. Alors ici, il n'est pas question certainement de l'exil de Babylone, du retour d'exil de Babylone, puisqu'il y a les nations étrangères qui viennent aussi à Jérusalem. Remarquez aussi qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance de la part de ces peuples, autrefois hostiles, qui sont appelés même fils et filles, puisque eux-mêmes annoncent la bonne nouvelle, les louanges du Seigneur. Il faut imaginer des choses incroyables. Un ennemi d'un peuple qui vient dire au monde et chanter au monde que ce peuple que j'oppressais, celui-là a la vérité, celui-là connaît le vrai Dieu. C'est une chose incroyable qu'il se passe. Plénitude de joie, plénitude de reconnaissance pour ces peuples qui sont maintenant des enfants de ce Dieu unique. Les cris de guerre ont laissé place aux chants de louange, d'adoration. La haine a laissé place à l'adoration, à l'amour. La rancœur à la paix, à la reconnaissance. Nous avons là le pèlerinage d'une grande famille, unie, qui reconnaît que la lumière du monde, le salut, la paix, l'amour, la joie se trouvent dans cette petite ville de Jérusalem. Alors ces nations s'empressent de venir dans une légèreté, comme un nuage, et aussi naturellement qu'une colombe rentre dans son colombier. Ces nations qui autrefois détruisaient, reconstruisent les murs. Ces nations qui oppressaient, servent. Ces nations qui haïssaient, aiment. Quelque chose de profond, d'intérieur, est annoncé par le prophète Ésaïe. Il y a aussi cette sérénité incroyable décrite. Les portes de la ville restent constamment ouvertes pour laisser entrer le flot incroyable de ces peuples, mais aussi pour nous dire qu'il n'y a pas besoin de fermer les portes ni les fenêtres. On est en sécurité, car Dieu règne au milieu de nous. Dieu vit au milieu de nous. Louange, joie, famille qui rentre à la maison. On est un peu dans la période de l'Avent, n'est-ce pas? Mais une question se pose. Quand aura lieu cette réalité? Quand cette lumière du monde a jailli, va jaillir à Jérusalem? Quand est-ce que ces nations, ensemble, vont se diriger vers Jérusalem dans la joie, dans la reconnaissance, dans la paix? Force est de constater que ce n'est pas aujourd'hui. Les portes de Jérusalem ne sont pas grandes ouvertes. On y dresse des murs pour assurer sa propre sécurité. Mais il me semble qu'on en trouve un petit indice dans ce chapitre même d'Ésaïe. Je vous relis le verset 10. Les étrangers rebâtiront tes murs. Leurs rois te serviront. Car je t'avais frappé dans mon indignation, mais maintenant, dans ma faveur, je te témoigne ma tendresse. Quel est le moment, chers frères, chères sœurs? Quel est le lieu où nous avons vu à la fois la colère de Dieu contre le mal se manifester et en même temps son amour profond pour l'humanité? Quel est ce moment? Quel est ce lieu où s'est concentrée cette profonde réalité d'un Dieu en colère contre le péché de l'homme, contre le mal qu'il fait à son prochain et à la création? Quel est ce moment où Dieu a manifesté son amour en venant lui-même porter le poids de nos fautes? Quel est ce moment où s'est dressé un morceau de bois sur une colline, pas très loin de Jérusalem? La croix. C'est la croix, chers amis. Ce moment fatidique, crucial, où Dieu a réuni sa justice, sa colère contre le mal et son amour pour régler une fois pour toutes le problème du péché et du mal. Jésus, celui que Jean qualifie de lumière des hommes dans l'évangile de Jean. Il est la lumière du monde, le serviteur souffrant. Alors quand Jean-Baptiste reçoit la parole de Dieu, force est de constater que la réalité de la peine n'est pas encore là. Ils sont parmi une nation étrangère, c'est sûr, mais ils sont encore sous le joug de l'Empire romain. Lui vient parler du salut à venir. Il vient parler de changement de direction dans cette attente du salut définitif. Oui, Jésus est la lumière du monde. Jean-Baptiste nous l'annonce. Il est bien mort, ressuscité à Jérusalem. Mais force est de constater que la prophétie d'Ésaïe n'est pas encore accomplie. La lumière du monde est venue à Jérusalem, mais tout ce qu'Ésaïe annonce n'est pas encore accompli. Et en fait, Ésaïe lui-même nous avait laissé un petit indice. Voici ce qu'il dit au chapitre 65, un petit peu plus loin. C'est Dieu qui parle. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois. On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours, tous, remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus les pleurs ni les cris de détresse. Les loups et les agneaux paîtront ensemble. Le lion mangera du fourrage, tout comme le bétail. Le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sacrée. Nous comprenons donc, avec ce petit passage d'Ésaïe, que nous aspirons, que nous attendons à un renouveau, à cette Jérusalem nouvelle, créé parmi cette terre et ces cieux nouveaux, cette Jérusalem qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Voici ce que dit Jean. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, la présence de Dieu même, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient la lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long des jours, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. Voici, chers amis, que nous sommes dans l'avant, dans cet avant, dans cette Jérusalem céleste, qui un jour viendra établir le règne de Dieu sur cette terre. Alors dans les ténèbres qui nous environnent, dans nos déserts intérieurs et extérieurs, comment entrer dans l'avant? Nous sommes dans l'entre-deux, entre la première venue de Jésus et son retour. Comme à Jérusalem, le Seigneur nous dit « Lève ton regard ». Lève tes yeux, ne reste pas courbé. Regarde ce que j'ai déjà accompli. Regarde à la croix. Regarde ce que je suis en train d'accomplir par mon esprit. Dans ce monde, les peuples de toutes les nations se rassemblent autour de moi. Et regarde aussi ce que j'ai promis d'accomplir. Le Seigneur nous presse aussi. Alors que nous sommes dans cette période de l'Avent, dans ce temps de la patience dont parle Pierre dans sa deuxième épître. Il nous presse à prier pour la transformation des cœurs, d'abord les nôtres et aussi ceux des ennemis. Le Seigneur convainc encore les saules, les personnes qui portent les armes, les fanatiques, que le Seigneur transforme ces cœurs. Prions pour nos ennemis, pour que la lumière du Christ les éclaire dans leurs ténèbres. Eux qui aiment la mort, qu'ils puissent trouver en Jésus la vie. Eux qui aiment les ténèbres, qu'ils puissent trouver la lumière du salut. Prions les uns pour les autres, qu'en cette période de l'Avent, nous puissions sans cesse lever nos regards vers ces lumières, nous tourner vers Dieu. Et comme à Jérusalem, Dieu nous dit « Lève-toi et resplendis » en comptant sur son Saint-Esprit. Le Seigneur nous invite à partager cette petite lumière que nous avons tout au fond de notre cœur, cette présence bienfaisante et profonde du Saint-Esprit. Que ce Saint-Esprit remplisse nos vies et qu'il jaillisse pour que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle de la paix. Alors, pour vivre l'Avent, il serait parfois tentant de changer tout le monde, changer le monde entier. Mais Jean-Baptiste nous dit, avant de vouloir changer le monde, regarde ton cœur, change ton cœur. Changer le monde, c'est le travail de Dieu. Changer ton cœur, se laisser éclairer par la parole de Dieu, ça, c'est quelque chose que tu peux faire, te laisser ouvrir à sa lumière. Que le Seigneur nous conduise et qu'il nous aide à rayonner de sa lumière, pour qu'un jour, nous puissions, avec les nations entières, les peuples de partout, chanter ce Hosanna, ce gloire à Dieu, car il est notre roi, notre sauveur. C'est lui, Jésus, la lumière du monde.